I enjoy some of the old, and I enjoy the new, and if I can...
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
What a day, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonsoir à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Vous écoutez La Photo Média sur les ondes de choc.ca. Deuxième émission de l'année, deuxième émission de 2018. Pas la 18e, la deuxième. J'essayais de faire une petite blague, mais ça a un peu échoué. Bonsoir Étienne Tardy-Paradis.
Bonsoir.
Bonsoir Myriam Bernet.
Bonsoir.
Bonsoir Tessie Jean-Paul.
Bonsoir.
Bonsoir Nicolas Roscanou, la relève.
Bonjour.
Mon frère en chair et en os. Émilien Roscanou à l'animation. Ce soir, à l'émission, on vous parle de profilage racial.
Ouh.
Qu'est-ce que c'est le profilage racial? Est-ce que quelqu'un pourrait nous faire une petite introduction, nous dire en quoi ça consiste exactement? Allez-y de votre définition. Tessie?
Ben, d'accord, mais là, c'est une question tellement large, là, qui peut, en tout cas, pour moi, ben, pas, en tout cas, le profilage racial, c'est d'étiqueter directement un groupe qu'on dit souvent ethnique, des caractères physiques, des caractères aussi émotionnels, sociologiques, qui sont caractérisés à un seul groupe de personnes, puis par la suite on discrimine ces personnes-là principalement à cause de leur caractère racial ou ethnique entre guillemets. Donc je pense que c'est ça. Puis le profilage racial, c'est quelque chose qui se fait justement dans une perspective de domination de race. Qu'est-ce que on sait qu'on utilise vraiment tellement plus le mot race aujourd'hui parce que c'est tellement presque péjoratif.
Et pourtant
les anglo-saxons qui utilisent vraiment...
les anglo-saxons oui
mais c'est pas le même
en francophonie sens. Beaucoup moins. Il y a comme un débat là-dessus sur le mot race. Est-ce qu'il faut utiliser, est-ce qu'il faut pas utiliser? Mais ça, on peut garder ça peut-être pour une autre émission.
Ouais, c'est ça. Ouais.
On en aurait long à dire.
Ouais.
Après cette petite mise en bouche, je pense qu'on va parler des champions de profilage racial, si on peut le dire ainsi.
De qui tu parles, Émilie?
De qui est-ce que je parle?
J'ai aucune idée.
Donc, on va parler de couverture des violences policières, vous l'aurez deviné. N'est-ce pas? Au niveau médiatique. Myriam, toi, tu t'es intéressée à la couverture de l'affaire Théo, qui a eu lieu en France en février 2017, soit il y a à peu près un an. Est-ce qu'elle nous rappelle un peu l'affaire Freddy Villanueva au Québec?
C'est ça, on peut faire un lien. Alors, pour l'émission d'aujourd'hui, pour ce thème particulier, j'ai voulu aborder l'affaire Théo en particulier pour plusieurs raisons. Il s'agit d'une affaire qui a beaucoup fait les manchettes et surtout en France. Donc, j'ai eu évidemment aucun mal à trouver des contenus, ma foi, plus ou moins pertinents. Mais surtout, il s'agit d'une affaire qui révèle beaucoup d'autres problèmes de nos sociétés quant au traitement qui est réservé aux personnes racisées. Et là, j'utilise le mot racisé de façon très consciente, particulièrement aux jeunes, que ce soit au niveau policier, judiciaire ou encore médiatique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à toutes et tous vous prévenir que ma chronique pourrait choquer certaines personnes ayant déjà subi des agressions, car il va être question, entre autres, de violence et de viol. Nous sommes le 2 février 2017 à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, quand un contrôle de police dégénère. Théo, 22 ans, est gravement blessé. Une arrestation violente qui a lieu quelques mois après la mort d'Adama Traoré suite à une interpellation policière à Beaumont-sur-Oise, toujours en France. Cette interpellation est filmée par plusieurs habitants du quartier par des caméras municipales. Deux versions des faits s'opposent et ces vidéos ne permettent malheureusement pas de trancher. D'un côté, il y a Théo qui affirme avoir été battu par un policier, violé avec une matraque télescopique alors qu'il s'interposait entre un groupe de jeunes contrôlés et la police, et il affirme également avoir reçu des insultes racistes une fois dans la voiture de police. De l'autre, il y a la version de la police selon laquelle cette arrestation aurait dégénéré à cause de la résistance de Théo. Ainsi, dans les jours qui suivent, les manifestations en soutien à Théo se multiplient dans l'Hexagone. Pour le jeune homme, les conséquences sont très graves, car ses blessures lui valent un arrêt temporaire de travail de 60 jours. Les 4 policiers sont mis en examen, l'un pour viol et les 3 autres pour violence volontaire en réunion. Et c'est un procès qui est toujours en cours, mais pour Théo, pourtant, la vie n'a pas tout à fait repris son cours. Et depuis, il est devenu, malgré lui, le symbole du problème entre les jeunes et les forces de police en France. Mais je cite la France en sachant très bien que ça arrive évidemment dans d'autres pays. Je me suis donc penchée sur le traitement médiatique français de cette affaire et en faisant une première recherche sur Eureka. Si jamais ça ne vous dit rien, Eureka est une bibliothèque d'informations de presse en ligne. J'ai pu trouver 408 articles de presse, dont 312 à tonalité négative, selon l'analyse de la plateforme, ce qui représente tout de même 77% du contenu. Cela ne devrait pas être étonnant alors que, selon l'Association des journalistes professionnels, la JPI, les connotations négatives concernent 68,06% des 13-18 ans et 48,03% des 19-25 ans dans les médias. Et quand la JPI parle de connotations négatives, il s'agit de l'utilisation de termes tels que victime ou encore auteur d'actes répréhensibles. Bref, il est bien sûr impossible de réaliser une analyse détaillée de ces articles de presse pour une chronique de quelques minutes, et je me suis donc surtout penchée sur les titres. Car les titres sont les premiers mots que l'on voit d'un article, ce qui nous pousse à lire, à cliquer, bref, ça fait vendre. Et s'il y a bien une chose que les médias veulent, c'est vendre.
Alors, ah oui.
Oui, effectivement. Alors, parmi les centaines d'articles apparus suite à ma recherche, j'ai quelques trouvailles à vous partager qui ne sont malheureusement pas des exceptions. Suite à cette affaire, au lieu de permettre aux habitantes et habitants de cette banlieue parisienne de s'exprimer, c'est le conflit et la violence des quartiers dits sensibles qui a souvent fait la une. On a eu droit à « la banlieue brûle » ou encore « émeute », un risque latent de contagion par le Figaro. Risque d'embrasement de toutes les banlieues de France avec le 20 minutes. L'émeute gronde en banlieue par le Point. Et c'est pas terminé. On a aussi la Croix qui titre « à Bobigny, les jeunes réclament la justice » avec la justice entre guillemets. À Aulnay, un quartier sous haute tension par le Monde. Le Parisien titre « les contradictions de Théo ». L'Humanité, pour sa part, pour la police, les jeunes de banlieue sont des corps déviants qui doivent être disciplinés. Libération y va de sa touche avec, en soutien à Théo, des manifestants contre l'impunité de la police, avec le mot impunité, entre guillemets. Bref, vous l'avez compris, tout est bon pour aborder la violence et les conflits dans les médias, c'est rentable et on n'hésite pas à en rajouter quelques couches histoire de jouer des coudes avec la titraille de la concurrence. Mais c'est trop simple de vous balancer des titres d'articles racoleurs comme ça, donc je préfère aller un peu plus dans l'analyse et vous me direz à la fin de ma chronique ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui pourrait expliquer de tels articles? Évidemment, je n'ai pas réponse à tout, mais je pense à deux points principaux. Tout d'abord, en journalisme, aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Alors au lieu d'aller à la rencontre des habitants de ces quartiers, les journalistes vont souvent tirer leur source des attachés de presse, des forces de l'ordre, car les liens existent déjà entre journalistes et forces policières, et c'est alors plus rapide et plus facile. Cela se vérifie d'ailleurs facilement à la lecture de quelques articles. De ce fait, le public et les personnes concernées qui habitent dans les banlieues se retrouvent placés directement à l'arrière-plan et sans voix. Ils lisent les médias, ne s'y retrouvent pas du tout, arrêtent de lire les médias. Il n'y a plus de confiance, et alors qu'il est difficile d'accepter de témoigner, le cercle vicieux se mord la queue. Alors j'ai pas de solution directe par rapport à ça, mais il existe tout de même des médias alternatifs qui permettent de retrouver ces voix et qui mettent en avant les gens et leur quotidien, car ne l'oublions pas, la démocratie, c'est aussi et surtout la pluralité des voix. Dans un second temps, la couverture négative des jeunes par les médias dont j'ai parlé précédemment, particulièrement des jeunes de banlieue, qui ne semblent alors, selon les journalistes, n'avoir aucune agentivité, sauf quand il s'agit d'être, je cite, des auteurs d'actes répréhensibles, explique également cette couverture médiatique que j'ai trouvée et que je trouve toujours particulièrement violente. Les impératifs financiers n'expliquent pas tout. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, encore une fois, que c'est souvent la faute aux médias.
Je trouve ça vraiment intéressant ta chronique parce que justement j'ai repensé justement quand t'avais posté ça sur le groupe Facebook puis j'avais écouté il y a à peu près un an un reportage de je pense que ça devait être une heure et demie immigration et délinquance mm-hmm. Je sais pas si t'avais vu ce
non
ce
mais c'est ça c'est comme juste le titre du reportage et à l'image souvent des articles hein, c'est extrêmement racoleur ouais, ils mettent des mots ensemble
oui exactement
puis les gens vont comme oh, les immigrés, c'est inquiétant. Ouais, puis ouais. Ça entretient cette image-là.
Mais pourtant, ça déconstruit totalement. Moi aussi, au début, là, je me sens. Tu sais, j'étais là. Ben, est-ce qu'il va vraiment partir là-dessus? Ouais. Puis au début, c'est vraiment ça. C'est on renforce un petit peu les stéréotypes oui. Et tout ça. Puis finalement, on se rend compte que pour être capable de d'où se construit ce stéréotype de du jeune délinquant et tout ça. Et puis, tu sais, ça t'amène une réflexion vraiment plus loin. Mm-hmm. À quel point que les simples stéréotypes ou la perception de quelqu'un d'autre peut coûter la vie à des gens. Tu sais, je prends l'exemple de à la fin justement du reportage, je prends l'exemple de des jeunes qui ont été en fait que la police avait il y avait un citoyen qui avait appelé la police simplement parce qu'il y avait des jeunes près d'un centre d'électricité quand même à haute tension. Puis c'était mm-hmm. vraiment plus pour la sécurité des jeunes qu'il avait appelé, mm-hmm. pas plus parce qu'ils étaient dangereux ou qu'ils faisaient du bruit. Mm-hmm. Et puis la réaction première des jeunes en voyant la police arriver, ben c'est de s'enfuir.
Oui.
Ou oh oui. Comment ça, dans un rapport comme ça, c'est la première chose qui se passe. Et puis malheureusement, à ce que t'es arrivé, il y a deux jeunes qui se sont cachés dans des chambres oui. électriques et qui sont mm-hmm. décédés.
Effectivement.
Et puis là, ça pose la question, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, quand des jeunes voient la police directement, puis c'est pas une voiture de police qui fait une patrouille, c'est quatre voitures de police qui arrivent. Et quel est le... Quand tu sais que les jeunes n'ont rien fait, en tant que policier, pourquoi tu cours après? Si tu sais, ouais. La police n'a pas été appelée là pour dire ok, ils font du bruit. Tout. Non, 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 c'est ben juste voir s'ils sont corrects les jeunes, ils sont près d'un truc qui pourrait être dangereux. Mais quelle est la réaction qui pousse la police à courir mm-hmm. après les jeunes qu'ils ont rien fait? Fait qu'après tu mm-hmm. te rends compte que la perception, ça a coûté la vie à deux jeunes.
Effectivement,
c'est terrible. Hein?
Mais ça va dans le sens du cercle vicieux dont je parlais par rapport mm. aux médias et à la population. C'est la même chose avec la police et les jeunes, je pense, parce que les uns se méfient des autres et en fait le mot clé, je pense que c'est la confiance et elle n'est pas là, elle n'est plus là. Est-ce qu'elle a déjà été là? Je ne suis pas certaine. Mais en tout cas, c'est clair que au vu des derniers événements, et en France, et au Québec, et aux États-Unis, vraiment partout, et là je parle des pays occidentaux parce que c'est ce que je connais quand même le mieux sur ce sujet-là, la confiance n'est pas. Mm. Donc, comment rétablir ça? Comment faire en sorte qu'il y ait un lien qui se fasse, un contact qui se fasse? J'avais vu un entretien de Théo, justement, qui est assez récent, où il disait qu'il y a des policiers qui venaient le voir pour lui dire « Hey, genre, lâche pas, on est avec toi, mais on peut pas s'afficher non plus parce que sinon on va avoir des problèmes. Mm-hmm. » Tu vois? Je veux dire, à ce moment-là, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai aucune réponse.
Si... Je crois qu'il y a beaucoup dans la formation des policiers et des policières.
Oui.
C'est énormément mm-hmm. parce que, si je me trompe pas, le côté sociétal, sociologique, c'est peut-être deux cours. Tu sais, c'est quatre ans, si je me trompe pas, une formation policière. C'est une technique plus une année
Je
après
saurais pas te confirmer ça.
En formation professionnelle.
Okay.
Mais c'est environ quatre ans.
Mm-hmm.
Et tu sais, tout ce qui est apprendre à connaître l'autre, le jugement et tout ça, c'est abordé, mais c'est minime. Puis, tu sais, les étudiants, quand il faut qu'ils maximisent leur temps pour étudier leurs cours, ça va pas être là-dessus. Ils vont passer leur mm-hmm. test physique, ils vont passer leur, tu sais... Mm-hmm. Il y a plein de choses qui vont passer avant, grosso modo, ce qui, pour moi, est l'aspect protection des civils,
mm-hmm.
mais vraiment au terme, en fonction de leur jugement, tu sais, en fonction de... Les policiers sont vraiment formés pour faire de la sécurité. Et malheureusement, c'est le problème, parce que quand tu fais de la sécurité, tu vois les choses en termes de ennemi ou ne pas être un ennemi.
Ouais, mais quand t'es un ennemi, c'est parce que là, l'ennemi, il est vraiment tracé au couteau.
Oui, oui, c'est absolument, problème. Mais c'est un gros problème, je suis d'accord. Mais si tu bases ta vision des choses sur ça, il va toujours avoir, tu sais, une victime ou quoi que ce soit, parce qu'évidemment, t'es un policier, tu vas faire une opération, tu vas avoir un jugement rapide sur quelque chose parce que t'as pas eu la formation qui te permet de penser plus, tu sais. Il y a comme quelque chose qui, je me dis,
plus qu'un truc de formation, parce que je pense que à la base,
c'est sûr qu'il y a de la société, dans quelle société t'es élevé, je suis d'accord avec ça. Je veux dire, récemment, on a parlé de racisme systémique.
Oui.
Ça fait partie de l'équation. Oui. Après, il y a la formation, parce que si je regarde, par exemple, en Suède et en Norvège, ils ont des programmes où des problématiques comme ça, elles existent, mais elles ne sont pas présentes et récurrentes. Alors, je sais que dans les formations là-bas, justement, il y a des trucs comme ça, des interventions auprès de la population pour... Tu sais, ils ont des stages, des formations, puis tu sais, c'est moins un problème. Après, il y a moins d'immigration aussi en Suède. Il y a moins les mêmes, comment dire, problématiques qu'on pourrait confronter en Amérique ou ailleurs. Alors, c'est pas la même chose, je peux pas comparer à 100%, mais les pistes de solutions, elles existent, mais c'est certainement pas en continuant d'investir dans la sécurité, dans la répression qu'on va les atteindre, ces objectifs-là. Mm.
C'est des mentalités qui doivent évoluer, puis c'est toute une vision aussi de l'intervention policière en soi, parce qu'on sait qu'il y a d'un côté ce profilage-là qui est racial, mais il y a aussi énormément de problèmes avec... je fais une petite aparté là, sur les problèmes de santé mentale. Il y a beaucoup de personnes qui se font tuer, qui se font profiler parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale. Il y avait Monsieur Magloire qui a été tué par des policiers du SPVM parce qu'il était en crise psychiatrique, je pense. Donc ça aussi, c'est un problème énorme parce que il y en a des policiers, il y en a des escouades sociales dans la police qui font des interventions auprès de personnes avec des troubles psychosociaux de différents niveaux. Il y en a qui sont formés pour ça, puis ceux qui font ce travail-là sont bons dans ce qu'ils font, mais c'est une minorité de policiers et policières qui font ce genre d'intervention-là, puis qui sont formés pour ça. Donc évidemment, je suis sûr qu'à Nicolet, il y a peut-être un cours sur la santé mentale, parce que beaucoup des interventions qui sont faites par la police ont un lien avec la santé mentale, sauf que c'est pas adéquat, c'est pas assez poussé. Puis quand il y a 10 policiers qui débarquent dans 4 ou 5 voitures, puis qui se mettent à mettre en joue un homme qui est en crise, puis qui tient un couteau, puis qui le descend, c'est pas normal. Il y a des endroits dans le monde où il n'y a pas cette mentalité-là. Il y avait une vidéo qui avait fait le tour du monde, je ne sais pas si vous l'avez vue. C'était une intervention policière, je pense, au Royaume-Uni.
Ouais, c'est ça.
Puis
ouais.
Il y avait une personne en crise psychotique.
Avec
là,
une machette.
Chose. Avec une machette, ouais. C'est ça? Je ne sais pas si c'était en crise ou si c'était un...
Mais il y avait une arme létale, il y avait une arme blanche, puis
Ça montrait comment les policiers réagissent aux États-Unis.
Mm-hmm.
Ils l'auraient juste descendu. Alors qu'au Royaume-Uni, il y avait comme 3-4 policiers qui l'encerclaient à une bonne distance, puis qui le suivaient, puis qui s'assuraient qu'il n'y a personne sur son chemin. Puis on réussit à le convaincre de lâcher son arme après que la crise soit passée. Puis il n'y a eu aucun blessé, aucun mort, puis la personne a été prise en charge.
Mm-hmm.
Donc je pense qu'il y a des problèmes de formation au niveau de la police important à ces niveaux-là, donc au niveau des sensibilités raciales. Mais je pense aussi qu'il y a un niveau, qu'il y a un problème de représentativité aussi dans la police. Puis, j'ai vu qu'il y avait des efforts qui étaient faits, donc à la police de Montréal, par exemple, il y a des efforts qui sont faits pour engager en priorité des personnes issues des communautés racisées.
Mm-hmm.
Donc, je pense que c'est une bonne piste de solution.
Mais je pense aussi que...
C'est un effort qu'il faut saluer, même si la situation est encore à des milles d'être parfaite.
Ouais, mais moi je pense que, tu sais, je reviens souvent à ça sur comment on représente les gens dans les médias, comment qu'on les représente dans les cinémas, puis tu sais, je travaille pour ça aussi, tu sais,
mm-hmm.
puis d'avoir toujours que les communautés noires ou les communautés maghrébines ou ils ont toujours ce genre de rôle de soit cette femme noire agressive, cet homme noir dans la drogue, cet homme arabe, tu sais, comme je pense que ça passe aussi par, parce que vous veux pas, le cinéma, c'est un vecteur d'éducation quand même assez fort. T'sais, on peut pas le dénier, c'est quelque chose qui est accessible. Puis la révolution doit se faire aussi dans qu'est-ce qu'on écoute dans la culture, dans quel rôle qu'on donne à quel acteur. Puis il y a toute une portée politique à savoir, toi en tant qu'individu, en tant que metteur en scène, pourquoi tu prends cette personne-là pour faire ce rôle-là, en sachant qu'ils sont marginalisés, en sachant, tu sais, il y a comme quand même tout un travail de réflexion à faire derrière les œuvres culturelles, derrière les œuvres cinématographiques et théâtrales. Tu sais, ça a l'air de rien. Tu sais, je parle de ça comme, tu sais, c'est comme si c'était un enjeu sociétal, mais c'en est un, tu sais, parce que c'est comme ça que on forge de plus en plus des certains stéréotypes ou qu'on les déconstruit aussi, man. C'est quand même un arme assez forte, puis je pense qu'il faut pas dénier ce genre d'impact là sur l'identité de certaines personnes puis sur la perception qu'on a de certains groupes.
Ouais, complètement. Et par rapport à ça, là, je viens de retrouver un chiffre que j'ai vu pendant mes recherches aujourd'hui. Il y a le groupe Défenseur des droits, qui est une autorité constitutionnelle indépendante française, qui a commandité un rapport sur cette question. Puis, un des résultats, c'était que les jeunes hommes, je cite, perçus comme noirs ou arabes, ont une probabilité 20 fois plus élevée que les autres d'être contrôlés. Donc, il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là aussi. Et je pense pas que par rapport à ça, ce soit uniquement un problème de formation.
On s'entend. Il y a des problèmes de préjugés, de racisme. Puis c'est quand même incroyable qu'on profile de cette façon-là. Les gens ne sont pas au courant de leurs droits non plus.
Effectivement.
Donc, il y a beaucoup de gens à qui on demande, par exemple, de s'identifier ou... Tu peux refuser la demande d'un policier qui te demande d'être identifié si t'es pas en train de briser une loi. Donc, le policier qui se promène à Montréal-Nord puis qui demande à un jeune qui trouve louche « Identifie-toi », quand le jeune est assis sur son balcon, ben c'est pas légal.
Mais le problème avec ça, c'est que le policier a une multitude d'autres... il peut se servir d'autres choses puis dire « Ah, ben j'ai vu qu'il y avait ça sur son balcon, il y a une bouteille de bière, puis tu sais... »
Ah oui, le policier peut trouver des excuses.
Le policier, c'est ça exactement, il va trouver le moyen de le faire. Le problème, c'est que t'sais, justement, ces gens-là, oui, effectivement, ils n'ont pas les connaissances, mais même s'ils les avaient, dans beaucoup de cas, ça servirait peut-être pas à grand chose.
C'est ça, parce que c'est fait en toute impunité.
Exactement.
Les personnes qui filment toutes les interventions qui ont lieu, puis...
C'est ça, le rapport de force est clairement en désavantage de la personne qui se fait arrêter dans un contexte de profilage.
Oui, là, puis je peux juste imaginer qu'à force de se faire profiler, puis à force de se faire demander son identité pour aucune raison, ben... Il y a beaucoup de gens qui doivent abdiquer puis qui doivent se dire « bon, ben, de toute façon, c'est
sûr.
Comme ça ».
Au nombre de fois où ça arrive dans les journées de plusieurs personnes, je pense que t'es juste comme « tiens, regarde ma carte d'identité, laisse-moi tranquille, tu vois, tu vas pas t'acharner à chaque fois ». Au quotidien, ça doit être épuisant, moi je peux pas l'imaginer, mais ça doit être quand même assez épuisant.
Je suis un homme blanc, je viens de Québec, en plus, et je veux dire, c'est une réalité qui est tellement pas... On peut pas percevoir ce que c'est justement à chaque jour de sentir le regard de quelqu'un d'autre sur soi juste parce que t'es ce que tu es, tu sais. Tu sais, je veux dire, à Québec, tu te promènes, tu sens pas ce regard-là, mais c'est ça, c'est que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, puis j'imagine que c'est encore plus difficile à comprendre quand t'es un policier, que ton cadre, ta formation t'amène à penser, tu sais, de manière très très rigide, tu sais, c'est difficile de sortir de ça. Alors, je sais pas des justifier ou de les pardonner ou quoi que ce soit, mais de faire évoluer des mentalités, surtout chez le corps policier, ça va être quelque chose, tu sais, ça va vraiment être fait à la base, comme tu disais, Tessie, c'est une question d'éducation, c'est un problème beaucoup plus large à la base de la société. C'est super complexe, mais en même temps, c'est un gros
mais je pense
problème.
Aussi, c'est d'avouer moi j'oublierai jamais cette phrase de cette policière dans l'émission Enquête là qui parlait des femmes autochtones puis qui dit comme quoi nous il y a pas de couleur sur aucun dossier, on traite les femmes autochtones aussi bien que n'importe. J'en parle encore parce que je suis flabbergastée.
Ah oui,
j'entends ça et je suis comme mais c'est parce que là c'est parce que tu t'avoues que tu ne vois pas le problème ou que tu le comprends pas ou que bon après je veux pas insulter non plus mais ça n'a aucun sens de dire qu'il n'y a pas de couleur sur un dossier, parce que c'est clairement un problème de...
C'est invisibiliser le problème, en fait. Mais ces femmes-là sont des femmes comme les autres, mais pas du tout. Les femmes autochtones n'ont pas du tout la... on n'a pas la même situation, elle et moi. Toi, tu sais, comme toi et elle, ça n'a rien à voir. Et en tout cas, il y a une sorte d'une fausse pudeur, j'ai l'impression. Ah non, mais il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race ici. Justement, oui, il faut le dire. Il y a des personnes noires, il y a des personnes blanches et autres. Et il faut.
On n'a pas les mêmes privilèges.
Parce que dire qu'il n'y a pas de couleur, c'est dire que tout le monde est à la même hauteur. Alors que c'est complètement faux, effectivement.
C'est vivre dans le déni, tu sais.
Ouais. Ouais, surtout que les noms sur les dossiers, là. Tu prends deux secondes, tu fais, ben non, c'est pas le même truc.
Non, c'est clair.
Non, c'est ça.
J'ai pas de préjugés.
Puis, tu sais, dans le sens qu'on continue, même, tu sais, à la ville de Montréal, quand ils voulaient adopter la loi sur les CV anonymes, c'est parce qu'on sait qu'il y a un problème. Mm-hmm. On sait qu'il y a un problème avec ton nom de famille, avec qu'est-ce que tu dégages. On le sait. Mais pourquoi dans le corps policier, on pourrait pas l'avouer que oui, il y a un problème? Mm-hmm. Tu sais, comme on est tous conscients de ça. Puis dès que tu as un nom, tu peux être discriminé par le nom que tu portes.
Bien sûr.
Donc, après, il faut pas venir dire que non, il n'y a pas de distinction qui est faite. Ben oui, il en a une, tu sais.
Mm-hmm, exact.
Donc, moi, c'est quelque chose qui me donne encore la chair de poule, j'en parle. Puis c'est comme, je peux pas croire qu'elle ait dit ça. J'ai encore son visage dans ma tête. En tout cas, peu importe. Donc, c'est ça.
Ouais. Le profilage est un problème de société qui s'applique à tellement de sphères aussi. Il n'y a pas que dans la police qu'il y a des...
Mais non, c'est sûr, vraiment pas. À tous les niveaux, pour trouver du travail, trouver un appartement, avoir un prêt, je veux dire, n'importe quoi. Mais c'est vraiment à tous les niveaux.
Le problème avec la police, c'est que ça peut être des mercenaires en soi, parce que c'est supposé de faire le travail de l'État. Donc, c'est quoi la phrase... les policiers sont là pour protéger et servir.
C'est qui protège, c'est qui serve.
C'est ça justement
la question. En fait, au Québec, je pense que c'est la devise, c'est servir et protéger, et au Canada, puis aux États-Unis, c'est protect and serve. Ils ont les priorités inversées. Quoique la devise veut pas dire grand-chose, on a la preuve.
C'est ça, aussi. Malheureusement.
C'est sûr que quand t'es rendu... C'est rendu que c'est même plus protégé, là. C'est rendu une arme, la police, là. C'est plus...
Mais c'est parce qu'en fait, ils ont la légitimité étatique de la violence, en fait. C'est ça. Ils ont un crédit de la violence. Mm-hmm. Et de plus en plus,
ils se militarisent.
Oui, aussi, effectivement. Alors... C'est pas pour mettre tout le monde dans le même panier. Évidemment, on est beaucoup plus nuancé que ça, la faute aux médias. Mais tout de même, il y a un problème quand je vois un chiffre comme celui que j'ai dit tantôt sur le fait que quand t'es noir et arabe, que t'es un jeune homme, t'as 20 fois plus de chances de te faire contrôler. C'est peut-être qu'il y a effectivement un problème de société, de racisme systémique dont il faut parler et qui va bien avant les personnes qui rentrent dans l'école pour être policier ou policière, tu vois. Je pense qu'il y a une base à ça qui est beaucoup plus forte.
Mais récemment, il y avait aussi la manif du 12 novembre, moi, qui m'avait choquée parce que je marchais... Moi, j'étais sûre qu'il y avait une intervention très grave. Je pensais qu'il y avait quelque chose de... Tu sais, mes parents étaient dans un cinéma, puis j'étais à deux doigts d'aller les chercher pour dire « sortez de là ». Il y a comme des policiers partout avec des matraques jusqu'aux jambes. Mm-hmm. Et là, tu te dis « mais ok, il y a quelque chose qui marche pas, là. » Là, je m'en vais dans la rue, je me promets, et finalement, je vois que c'est une manif, puis je me rappelle que c'est la manif antiraciste du 12 novembre. Des policiers des deux côtés de la rue... Écoute, j'étais là, mais je suis dans un film.
On serait en état de guerre, mais ce serait la même chose.
Et j'ai osé demander à un policier, je dis, excuse-moi, pourquoi vous êtes autant? Il me dit, c'est juste pour garder la sécurité. Je suis comme, mais... Tu trouves pas que vous êtes beaucoup? Il dit, non, pas tant. Ok, mais tu sais, j'étais vraiment comme avec les casques et tout ça, puis c'était tellement une manif pacifique, tu sais.
Ouais.
Mais tu te dis, mais on dirait carrément que j'étais dans une scène de Hunger Games. C'est vraiment ça, c'est terrible de voir
c'est
ça.
C'est impressionnant à voir, vraiment. Effectivement. Ouais.
Donc, ouais.
On va faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que vous en pensez?
Très bonne idée, Emilia.
Histoire de se gargariser un peu avec de l'eau, de reprendre nos esprits.
C'est ça.
Fidèle à mon habitude, j'ai choisi de façon très assidue les choix musicaux de l'émission.
Par monsieur hasard, je crois.
C'est ça. On va écouter, pour commencer, la chanson « Tes oignons ». Du groupe Les Lunatiques.
C'est un beau petit nom, ça, Tes oignons.
C'est pour ça que je l'ai choisi.
Thank you.
venez d'écouter une chanson incroyable qui s'appelle « Tes oignons ». On parlait de des origines québécoises d'Étienne, québécoise étant la ville de Québec.
Okay.
C'était une entrée en matière un peu triste, pour un événement bien plus triste qui a eu lieu il y a un an. Dans 3 jours, on va célébrer les 1 an de la tuerie à la Grande Mosquée de Québec. Donc, comme on parlait de profilage racial, je voulais peut-être qu'on glisse un ou deux petits mots à ce sujet, parce que la couverture médiatique a été assez particulière. Là, on l'a entendu avec la petite bévue de comment il s'appelle, le présentateur à TVA?
Luc Lavoie?
Non. Pierre Bruno. Bruno qui a dit « Ah, c'est un peu comme du terrorisme à l'envers. »
Ouais. Parce que Qu'est-ce que c'est? Moi, je comprends toujours pas la notion de terrorisme inversé.
C'est ça, du terrorisme inversé.
Parce que normalement ça aurait dû être le contraire. Ça aurait dû être les attrapes.
Ben voyons donc, ça arrive au Québec.
Voyons donc. Non, c'est ça. Donc, ça a coûté la vie à de nombreuses personnes, cet attentat. Puis, c'est ça, dans les médias, on savait pas trop comment réagir à ça, parce que c'était le premier événement aussi important, aussi meurtrier, qui impliquait, dans l'imaginaire collectif, entre gros guillemets, l'un des nôtres, fermer les grands guillemets.
Ouais.
Donc, c'est un peu ça qu'il y a eu comme réaction. Oui, mais on n'est pas tous comme lui. Oui, mais c'était un loup solitaire. Oui, mais... Bon, donc c'est un petit
peu... On a très peu dit que c'était un terroriste, par exemple.
Ben, on a quand même assez... Je pense qu'on a quand même dit que c'était un attentat terroriste assez rapidement, quand même.
Ah oui? OK.
Dès le début, quand c'est arrivé, dans les grands médias, ils disaient... Bon, au début, c'est sûr qu'on disait, bon, il y a eu des coups de feu, il y a un tireur.
Il y a toujours aussi l'idée de... L'homme blanc qui a perdu la raison, qui a viré fou, non?
C'est venu très vite, ça aussi.
Oui, c'est venu très vite.
Ouais.
Puis c'est ça qui est venu très vite aussi quand il y a Marc Lépine qui a descendu 14 femmes à Polytechnique.
Mm-hmm.
D'abord eu la réaction, comme toute personne non violente que nous sommes, mm-hmm. Le collectif de l'époque sociale s'est dit, mais il doit être malade. Ça mm-hmm. doit être un malade pour commettre un tel geste.
Mm-hmm.
Puis on s'entend que pour commettre des actes violents, il faut être un peu malade quelque part, mais pas nécessairement...
Bien sûr, mais
pas nécessairement avoir voilà. une maladie mentale
pas
comme
au niveau...
Juste
on
être un malade,
être
entre gros guillemets. Là.
Oui,
être,
oui, oui, c'est
être,
ça.
Désaxé, être radicalisé, être ci et ça. Être hors de l'état normal. Donc, c'est... Si on peut le dire ainsi. J'entendais aujourd'hui un intervenant qui était à la période de questions à RDI, qui travaille au centre de déradicalisation des jeunes. Il travaille à Québec, puis il expliquait que il y a beaucoup de gens, puis on s'en rend pas compte, puis on veut taire le problème, mais il y a beaucoup d'individus, de gens qui sont... vivent certains problèmes, vivent de l'isolement, etc., puis sont très, très malléables, sont très, très réceptifs à des discours haineux puis à des discours violents. Donc, c'est un problème très grave et avec beaucoup de ramifications parce qu'il y a des discours haineux dans certains médias. Il y a des gens qui sont réceptifs à ce genre de discours-là, puis des gens qui vivent toutes sortes d'autres problèmes qui en viennent à développer des tendances violentes. Puis, ce que j'entendais aussi aujourd'hui, c'est que ça avait entraîné un autre problème parce que cet attentat-là a permis à des groupes comme Atalante Québec, comme La Meute, mm-hmm. comme... Il y en a un autre, là, les 3% ou quoi, là.
Et les Frères Dedans, mais je pense que c'est devenu... Bref, il y en a une myriade.
Il y en a une myriade, puis j'entendais que le fait qu'il y a eu ces attentats-là à Québec a fait qu'ils ont obtenu beaucoup d'espace médiatique qu'ils n'auraient pas eu autrement. Donc, il y a comme un effet de domino qui fait mm-hmm. que des discours haineux qui sont quand même présents dans l'espace médiatique sont maintenant sous le feu des projecteurs, donc ça leur mm-hmm. donne une publicité incroyable, en bien ou en mal, mm-hmm. on en parle. Donc, c'était un effet peut-être un peu pervers de ce qui se passe. En même temps, ça nous fait peut-être réaliser l'ampleur du problème, puis le fait que c'est pas des petits groupes marginaux. L'expert expliquait qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup plus de gens qui sont dans ces groupes-là, mais qu'ils ont vraiment un espace médiatique incroyable à cause de ça. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que tout d'un coup, il y a énormément plus de ces groupes-là. Ces groupes-là peuvent quand même être attrayants pour certaines personnes. Puis justement, leurs discours qui sont diffusés dans des médias... peuvent trouver oreille attentive.
Mais un truc, ça se peut très bien que je me trompe, là, j'ai aucune étude là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... On parle de radicalisme avec l'islam, alors que dans l'histoire du Québec, il y a plus de radicalisme avec l'extrême droite, puis des pensées qui vont dans ce sens-là, qu'avec toute autre chose. Et je pense qu'il y a des organismes qui se penchent sur le radicalisme, peu importe d'où ils viennent, mais j'ai l'impression que dans les journaux, etc., il y a comme cette idée-là que le radicalisme, il vient d'ailleurs, tu sais.
C'est toujours l'autre, avec un A majuscule et des guillemets qui est radical et qui est coupable de... On peut lui accoler tout ce qu'on veut derrière.
Il y a des extrémistes dans toutes les sphères. Puis le fait de leur accorder cet espace médiatique-là, ça leur permet de répandre leur discours. Puis c'est des discours très polarisants. Parce qu'après ça, la réaction que ça entraîne chez les gens, puis c'est « oui, mais on n'est pas tous comme ça ». C'est une réaction un peu viscérale, là. Puis en même temps, évidemment, là, que...
Mais voyez ce que ça fait quand on demande à la communauté musulmane de se détacher d'actes qui ont été perpétrés sous excuse de... C'est pour Allah. Alors, là, il y a une situation où on comprend qu'à quel point c'est un non-sens de faire ça et de demander à toute la communauté musulmane
de s'excuser
ou de se détacher de ces événements-là alors qu'ils n'ont aucun rapport.
Exact.
Mais tu sais, il y a aussi, tu sais, la chose qui est vraiment triste avec ça, c'est que, tu sais, il y a double tranchant justement à l'accessibilité à Internet et tout ça. Et puis, tu sais, on le voit vraiment directement aujourd'hui, le racisme décomplexé, tu sais, sur les réseaux sociaux.
Extrêmement décomplexé, c'est effrayant.
C'est terrible.
Effrayant.
Tu dis, dans la vie de tous les jours, souvent, c'est des gens qui sont probablement très normaux, je l'espère, et qui lancent leur dévolu sur les réseaux sociaux comme ça, puis en traitant les gens de, sans même comprendre vraiment la portée de leurs actes, sans même comprendre qu'est-ce qui est mentionné des fois dans certaines publications, dans certaines vidéos et carrément d'insulter. Je trouve ça quand même assez effrayant parce que tu te dis, justement, on disait que ça ouvre des portes à d'autres personnes, puis en même temps, ça permet à d'autres personnes justement de se radicaliser. Puis c'est vraiment un outil c'est un vecteur tellement fort puis qu'on n'est pas vraiment capable de d'arrêter ou de contrôler nécessairement.
Ben c'est sûr, tu vois ton voisin, il donne son opinion sur tout et rien sur Internet alors qu'il a aucune idée il maîtrise aucunement ce sujet, mais il donne son opinion. Pourquoi tu ferais pas la même chose? C'est si facile de laisser des commentaires sur des publications Facebook. Moi personnellement, je les lis pas parce que sinon
je plonge
dans une dépression profonde.
Le problème aussi, c'est je sais pas si on en avait déjà parlé à l'émission, mais le problème de sauter toujours tellement rapidement sur des nouvelles qui concernent certaines communautés en prenant ça, excusez-moi l'expression, pour du cash, et en vérifiant même pas nos sources. TVA a été réprimandé récemment parce qu'ils ont sorti une nouvelle qui s'est avérée fausse.
Oui.
C'était des rumeurs que proche d'un chantier dans un chantier au centre-ville de Montréal, près d'une mosquée, on aurait demandé à des femmes sur le chantier de ne pas travailler devant la mosquée parce que ça dérangeait les personnes. Évidemment que si ça s'était avéré, ça aurait été scandaleux. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun des journalistes puis des chefs de pupitre à TVA qui a remis en question la nouvelle, puis ils ont tellement voulu faire chou gras avec une nouvelle comme ça.
Oui, c'était beaucoup trop croustillant.
Ça
venait tellement renforcer, c'est trop facile.
Mais bien, parce qu'il y a des gens qui sont restés sur cette nouvelle-là, puis il y en a qui décrochent pas de ça. Oui, c'est arrivé.
C'est qu'il y a plein de gens qui ont vu cette nouvelle-là en premier, mais qui n'ont jamais entendu la justification, les excuses par
mais
la
non,
suite.
Mais non, c'est moins intéressant.
Donc, il y a des gens aujourd'hui au Québec qui sont encore convaincus
complètement
qu'il y a des musulmans
arrivé,
qui ont demandé
ouais.
à des femmes de ne pas travailler sur
ah, ça
un chantier.
Ça n'a pas d'allure. On demande à des femmes de ne pas travailler sur... Et puis, c'est bien la cause des femmes. Tout d'un coup, elle est soutenue par, par tout le monde. C'est étrange.
Oui, oui, oui. On a suivi le cours sur l'antiféminisme où les gens couvrent leur racisme sous le couvert du féminisme.
Effectivement, mais juste pour après,
entre
oui,
de gros
féministe, mais
là.
Pour une certaine catégorie de femmes, attention.
C'est hein. ça.
On va pas défendre toutes les femmes.
C'est
non
un
plus.
Féminisme très primaire, mais c'est même pas du féminisme.
Non.
Hein,
non. C'est absolument pas du féminisme.
Il y avait eu aussi l'exemple de la nouvelle qui avait fait le tour des réseaux à TVA. Aussi, je pense. Mais ça, c'était parti sur Facebook. C'est que il y avait un groupe musulman qui priait attention au parc safari.
Oui, et... oui, mon
ouais,
Dieu, oui.
Il y avait
donc...
comme un groupe communautaire ouais. qui avait ouais. décidé d'envoyer tout le groupe au parc safari. Ils avaient loué un espace dans le parc. Mm. Puis là, à une certaine heure, ils ont fait jouer de la musique religieuse. Puis ils ont fait la prière tous ensemble pendant l'après-midi. Et là, il y a quelqu'un qui... outré, prenait une vidéo de ça en disant « Hey, les musulmans, ils prennent le contrôle du système de son du parc safari et ils font jouer leur musique islamique. Okay? » Puis là, cette vidéo-là a fait le tour des réseaux sociaux, les médias en ont parlé, tout ça pour que le lendemain, on se rende compte que ben, le groupe communautaire musulman avait loué une partie du parc
comme n'importe
avec
quel
des
groupe.
Tables à pique-nique et tout mm-hmm. et tout. Puis qu'à un certain moment, ils ont fait jouer de la musique sur les haut-parleurs de cette ère-là.
Ouais.
C'est affreux, là. Des fois, on a des préjugés, puis on comprend pas certaines réalités où on veut juger trop facilement.
Où on prend la réalité comme on, en fait,
on l'aperçoit.
Exactement, on la traduit comme on la souhaite, en fait.
C'est ça.
Par rapport à nos préjugés.
Exact. Un dernier petit exemple. Dans le métro de Montréal, il y a quelques années, il y avait eu une femme qui avait été filmée en train de plumer un oiseau.
Dans le métro de Montréal?
Dans le métro de Montréal.
Ah ouais,
puis
OK.
On pensait, dans la vidéo, puis ce que les gens disaient, puis s'éloignaient parce qu'ils avaient comme peur, ils savaient pas trop ce que la femme faisait. Elle semblait être en train de manger l'oiseau cru.
Oh.
Donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle le plumait.
Rachète, ouais.
Avec les dents.
Puis plus tard, ça fait le tour des réseaux sociaux, des médias, puis on s'est rendu compte que c'était une femme autochtone qui avait réussi à mettre la main sur tel oiseau, puis qui avait pas le temps de se rendre chez elle, puis de le pluming à domicile. Puis c'est juste une pratique très 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 ouais. acceptée, mm-hmm. très sauf que ça choquait de voir ça dans le métro. Ouais. Puis bon, après ça, on peut se demander est-ce que c'est le meilleur endroit pour faire ça.
Ouais, ça
mais le point, c'est que c'est pas ça le point.
Ouais,
c'est
ouais,
le,
ouais.
c'est qu'on s'est monté au créneau comme ça pour juger
ouais,
la personne.
Clair.
Moi, ce qui
exact.
Me choque dans le métro, c'est quand on ouvre les portes puis on n'ouvre pas la porte pour la personne en arrière. Ça me choque vraiment pas de plumer un oiseau là-dessus.
D'ouvrir la porte pour la personne en arrière.
Ben, exemple, tu sais, les portes battantes, ben, tu la pousses.
Ah
t'as
oui,
quelqu'un
la
derrière
porte.
Toi, forcément.
Ouais, c'est ça,
il y en a qui
oui.
se dépassent à se faufiler. C'est comme une course contre le temps, tu sais. Essayer de passer dans la petite crête qui reste. Ben ça me choque, tu sais. L'oiseau, ben écoute, j'espère ben, que tu vas le manger.
Moi aussi, tout ça, ça me choque. On va écouter une petite chanson, toujours sur les ondes de
choc.ca. Avant, est-ce que je pourrais faire un dernier point pour clôturer?
Fais un petit point, Myriam, pour clôturer. Après, on pourra aller à la chronique de...
Il y a plusieurs événements pour la commémoration de l'attentat, donc du 29 janvier. Et si ça vous intéresse, il va y avoir une causerie avec Asma Ibn Zahir, qui est chercheuse, conférencière, consultante, enseignante. Et le thème, ça va être « Un an après l'attentat du 29 janvier, combattre l'islamophobie ». Et ça va être des échanges, donc c'est pas une conférence à proprement parler, c'est vraiment une causerie, puis ça va avoir lieu donc le lundi 29 janvier à 17h30 au pavillon Hubert Aquin à l'UQAM, si ça vous intéresse. Mais il y a plein d'autres événements de commémoration qui vont avoir lieu pour les prochains jours.
C'est ça, sur 3 jours, donc ça commençait aujourd'hui, là. 26.
Mm-hmm.
La tuerie a eu lieu il y a un an, le 29, donc jusqu'au 29.
C'est ça, jusqu'au 29, il y a
des commémorations à Québec et à Montréal et ailleurs.
Oui.
Donc, on va écouter une petite chanson, puis on vous revient. La chanson, c'est La balade du siècle de l'artiste Musique Chienne.
ciel sans contrainte. Je me suis endormie sur un vieux porc-épique. Les arbres qui défilaient m'avaient l'air sympathiques. Je me suis égarée dans un grand labyrinthe. Le soleil retombait dans un ciel sans contrainte. Je me suis endormie sur un vieux porc-épique. Les arbres qui défilaient m'avaient l'air sympathiques. C'est la balade du siècle, la balade du siècle, c'est la balade du siècle, la balade du siècle, c'est la balade du siècle, la balade du siècle, c'est la balade du siècle, la balade du siècle, c'est la balade du siècle, la balade du siècle, c'est la balade du siècle. J'ai trouvé dans un rêve l'astuce pour en sortir. Dès la nuit ravalée, chaque point de lumière. Je me suis réveillée, décidée à partir. Mais j'avais oublié le tout premier repère.
De retour sur les ondes de choc.ca, vous écoutez toujours La Faute aux médias en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Maintenant, Étienne Tardy-Paradis, tu nous as fait une chronique,
oui.
Toujours sur le profilage racial.
Oui, donc bonjour tout le monde. Voici ma première chronique de 2018, une première chronique sous le signe de la zénitude. Fini les montées de lait, les rages de dents et poussées de colère. Je suis maintenant au zénith de mon yang. Mes pensées sont bercées par un soleil intérieur, une luminosité harmonieuse, une chaleur rassurante. Dans mon confort intérieur, je construis un petit fort, ou plutôt un coffre-fort. Une fois bien enfermé, je réfléchis. Je délibère, je considère. Mais où suis-je? Je regarde autour de moi, le vide, rien. Un monde aseptisé, fade, pâle, délavé. Je réalise que dans mon coffre-fort, il n'y a que du yang, pas de yin. Pas d'obscurité, de fraîcheur, de réceptivité. Sans yin, il ne peut pas y avoir de yang. Et encore, il manque quelque chose. Je dois sortir de là. Je dois défoncer le coffre-fort à la Dalton, avec du Jodassin qui joue en arrière-fond. J'éventre les murs du fort. Je confronte mon confort intérieur. Je feuillette quelques pages du journal Le Soleil. La chaleur n'est plus si rassurante mais suffocante. La luminosité disproportionnée. Le soleil du réalisme finit par me brûler. La zénitude, ce n'est pas pour moi. Fuck la pensée dualiste. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Ce n'est pas moi contre lui ou nous contre eux. Fuck le dualisme cartésien de Descartes. Il n'y a rien de sensible ou nuancé dans une vision manichéenne de la philosophie. À mon grand malheur, cette vision est largement dominante dans nos sociétés dites modernes. L'idée du bien et du mal est omniprésente, car facile à comprendre et à illustrer. Ce concept est particulièrement utilisé par les gouvernements pour expliquer leur position sur les questions reliées à l'éthique, ou encore dans une discussion de salon entre deux personnes pour expliquer le voyage d'un premier ministre chez un riche philanthrope. Cela dit, entre l'État et la population, il y a les médias, qui agissent comme un fil conducteur de l'information. Malheureusement, ces derniers n'échappent pas à cette tendance. L'un des cas les plus parlants est celui de la couverture médiatique des opérations policières par les médias de masse. L'appareil de répression de l'État, communément appelé la police, est très souvent, voire trop souvent, décrite comme le bien incarné faisant face à des hordes de vandales. Évidemment, ce ne sont pas toutes les couvertures qui leur sont favorables. Problèmes à l'interne, lieu de pouvoir, empiètement juridiction, etc. Toutefois, lorsqu'il est question d'interaction avec la population et l'intégrité physique d'un ou d'une policière qui est en jeu, la couverture leur est généralement positive chez les médias de masse. Mis à part pour 728, mais d'un côté, quand tu as tabassé le 1/3 de la population étudiante, quelques musiciens et musiciennes et encore d'autres, des conséquences sont à prévoir. À titre d'exemple, dans le journal de Montréal, on pouvait lire « Brutalité policière, vitrine cassée, objets lancés, mais pas d'arrestation, les policiers se défendent ». Une brutalité justifiée par le journaliste. TVA Nouvelle, un citoyen victime de brutalité souffrant de schizophrénie. Évidemment, les troubles de psychologiques légitiment la violence à leur égard. Le journal Le Soleil, un jeune homme membre d'une bande criminelle victime de brutalité policière, point d'interrogation. J'imagine que la brutalité contre les supposés brutes, ça ne compte pas. Le dernier exemple est le plus parlant, le cas de Freddy Villanueva abattu en 2018. Les médias de masse se sont empressés de sous-entendre qu'il s'agissait de légitime défense. Après tout, le jeune Villanueva était dans Montréal-Nord avec des personnes affiliées à un gang de rue et en plus, il jouait au dé. Un jeu qui s'est fini de manière atroce et abrupte. Alors qu'il n'y avait ni gentil ni méchant, mais une personne qui a perdu la vie pour un simple jeu. Parce qu'un constable a fait le constat prématuré qu'il y avait des criminels endurcis devant lui. Dans sa tête, c'était lui ou eux. Deux options, gagner ou perdre le duel. Bref, je dois quand même nuancer le fait que ce ne sont pas tous les médias qui offrent une couverture de la sorte. Je pense à Ricochet, Huffington Post, Le Devoir. Par contre, je ne crois pas que le poids médiatique est le même entre Ricochet et le Journal de Montréal et donc une certaine influence sur la population montréalaise en l'occurrence. Ce constat, sans réponse ni explication, m'amène à poser quelques questions sur la couverture médiatique des médias de masse. Pourquoi certains médias justifient des actions policières plutôt douteuses? Pourquoi la brutalité policière contre des personnes affligées de problèmes psychologiques est légitimée? Pourquoi l'utilisation de la violence contre des personnes supposément violentes est normalisée? Je ne possède pas de réponse, mais écouter la chanson « Et si tu n'existais pas » de Joe Dassin me semble un bon début, déjà.
Et si tu n'existais pas? Dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir
et sans regret.
Wow, mais belle surprise, je m'attendais pas à ce que tu la mettes.
Quand j'ai vu Joe Dassin dans ta chronique, Étienne, j'ai pas pu résister.
Excellent.
Parlant de l'été indien, pas un titre correct?
ouais, non, c'est ça, c'est un autre sujet. Je pense qu'on pourrait vraiment faire
une émission une chronique complète, complète là-dessus. Ouais.
Est-ce que tu... mon micro était fermé.
C'est pas grave.
Est-ce que tu as terminé ta chronique, Étienne?
Oui, absolument.
Parfait.
Ça finit.
Juste une petite modification, t'as dit 2018.
2008.
J'ai entendu 2018, mais bref, c'était pour clarifier.
Ouais, non, c'est 2008.
C'est arrivé en 2008.
Oui, absolument.
L'affaire Freddy
Villanueva. Villanueva, exactement.
Ouais. Déjà, ça fait déjà presque 10 ans.
Ouais. Ouais, exactement.
Mais c'est toujours très présent. D'ailleurs, il y a eu une murale qui a été faite à son honneur, si je ne me trompe pas, qui avait été... C'est Valérie Plante qui avait donné le OK pour le projet, puis il y avait quand même eu des remous en général à Montréal pour se dire « Ah, est-ce qu'on veut vraiment valoriser ça, etc. » Puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup de doutes, puis c'est encore très peu clair. Il y a des enquêtes qui ont été faites, mais des enquêtes de policiers sur des policiers. Bon, c'est
le discutable. Problème revient toujours. Hein?
Oui.
C'est toujours la SQ qui enquête sur la SPVM, le SPVM qui enquête sur la SQ.
Effectivement.
Le directeur du SPVM qui est limogé, le directeur de la SQ qui vient faire le ménage.
Ça reste dans la famille, hein, comme
ça
on
reste
dit.
Dans la famille. La familia.
Mais un truc que je voulais aborder... Qui est venu tout à l'heure, c'est les sources d'informations, comme Myriam disait tout à l'heure. Mm-hmm. La police fournit beaucoup d'informations au même titre que l'État. Et il y a Chomsky qui a fait un modèle très intéressant, un modèle de propagande. Et dans son modèle de propagande, il y a un filtre, le filtre de l'information. Il explique que, grosso modo, les médias de masse qui n'ont pas suffisamment d'argent l'argent pour déployer des journalistes partout en tout temps vont vont utiliser des sources fixes de manière constante et quotidienne. Comme ça, ils dépensent moins d'argent et ils ont une certaine fiabilité dans leurs ressources. Donc, la police rentre dans ces sources-là qui sont fixes et, justement, ils vont toujours prendre l'information souvent de la même personne, de manière continue, ce qui fait en sorte que rien n'empêche les policiers de peut-être transformer un peu la réalité sans nécessairement apporter des faits qui ne sont pas vrais, mais c'est quelque chose qui est très, très dangereux. Il faut faire attention des sources qu'on va aller chercher, que ce soit la police ou le gouvernement, d'ailleurs. C'est toujours bien de vérifier, avoir un double-check sur ces choses-là.
On a des très beaux exemples à la Maison-Blanche ces temps-ci. All hail our king Chomsky. Merci, Noam Chomsky. Donc, c'est déjà tout pour l'émission. Merci, Myriam Bernet, Étienne Tardy-Paradis, Nicolas Roscanou et Tessie Jean-Paul d'avoir été là. Myriam, tu voulais dire un dernier petit mot?
Merci, Emilien Roscanou, qui
beaucoup.
A fait ce soir la régie et l'animation.
Wouhou! Donc, et le DJ, et le DJ.
Et
on
le
va
DJ?
Se avec une autre chanson. Et cette chanson-là a un titre très évocateur. Elle s'appelle Blablabla. Bla,
bla, très bien,
de
très bien.
L'artiste tendre. Donc, pour vos tendres oreilles, cher public, c'était la photo média.